Alors merci à ceux qui ont zappé la grand-messe à la basilique. Et bienvenue sur ce débat. Francis Berthelot, Philippe Curval, Xavier Mauméjean, Patrick Maxper, qui s'est déjà présenté, je suppose. Et voilà, on va parler de mélange des genres, un atout pour le romanesque. Et on va commencer par Francis Berthelot, parce que Francis doit absolument quitter la table à un certain moment. Il a un train à prendre.
Voilà, oui, je vous abandonnerai lâchement avant le lancer de tomates. Je vous abandonnerai à 11h moins le quart.
Oh, ben 11h moins le quart, on a encore le temps.
Oui, on a encore le temps. On a encore le temps. Je partirai juste avant le lancer de tomates.
On va laisser passer, vu qu'à 11h moins le quart,
après, voilà. Vous pourrez dire du mal.
Alors, Francis a écrit La bibliothèque de l'entremonde, qui est en folio et accessible.
Totalement.
Toujours,
totalement.
Et qui est un ouvrage qui raconte les convergences, les interpénétrations entre la littérature générale et les littératures de l'imaginaire. Peux-tu en parler un peu, Francis ?
Oui, tout à fait. Je faisais partie à cette époque-là d'un groupe qui est rattaché à la littérature générale, qui s'appelle La Nouvelle Fiction. Et j'essayais de caractériser, comme je travaillais au CNRS, en termes narratologiques, ce qui se passait dans ce groupe, et puis finalement je me suis aperçu que ce que je définissais était beaucoup plus vaste que ce groupe, et puis beaucoup plus vaste que la France, et s'étendait au monde entier. C'est tout simplement la nébuleuse qui entoure la frontière entre la littérature blanche et les littératures de l'imaginaire. Et il y a effectivement tout un tas de bouquins. Toi, tu te restes à ta place, sinon t'as voir ta gueule à la récré. Et il y a donc tout un tas d'ouvrages qui sont inclassables, qui sont de la littérature blanche, mais qui utilisent des éléments de l'imaginaire. Et inversement, bon, à la frontière de l'imaginaire, on trouve des auteurs dont les schémas de pensée ne sont pas du tout ceux qui caractérisent les genres traditionnels, comme la SF ou la fantasy, ou etc. Donc, j'ai fait un vaste melting pot que j'ai baptisé les transfictions au pluriel. Et j'ai rédigé un guide de lecture, essai, pour Folio SF, à la demande de Sébastien Guillot, puisqu'il avait déjà publié un ouvrage de Francis Valéry sur la science-fiction, un ouvrage de Patrick Marcel sur la fantasy, sur le fantastique, et puis un troisième ouvrage.
De Ruault sur le merveilleux, non ?
De Ruault sur le merveilleux. Sur la fantasy, voilà.
Le merveilleux, c'était.
Le merveilleux.
Cartographie du merveilleux.
Cartographie du merveilleux. Donc, quelle était la question ?
Mais tu as expliqué ta démarche. Moi, je voudrais que tu expliques un peu, que tu dises, mais de quels auteurs as-tu parlé ? Autrement, on ne va pas les citer tous.
Bah, si j'avais le bouquin sous les yeux, ça m'aiderait, parce que j'ai écrit ça il y a déjà 10 ans, donc je ne m'en souviens plus très bien. Mais en fait, disons, je pouvais mettre dans aussi bien le Petit Prince que Fight Club, qui sont des ouvrages, ou que le Festin nu de William Burroughs, de nombre d'auteurs d'Europe centrale, ou La forteresse de coton de Philippe Curval. Oui, tout à fait.
Bien soufflé, Philippe.
Non, mais il a raison, parce que moi j'ai complètement oublié. Moi, une fois que j'ai écrit un bouquin, j'oublie ce qu'il y a dedans, parce que bon, il est écrit. Et comme c'est pas celui qu'on m'a mis là, je peux pas. Mais
justement, parlons de La forteresse de coton, Philippe. Qu'est-ce que tu avais essayé de faire dans La forteresse de coton, c'est-à-dire mêler le nouveau roman et la science-fiction ?
Non, à l'époque, c'était dans les années 60. C'était une époque où la science-fiction était complètement retombée, où plus personne n'en lisait. Et donc, j'ai écrit un livre qui, pour moi, était de la littérature générale, avec une tendance fantastique, puisqu'il y a un dédoublement de personnalité du personnage central. Et il se trouve que, par la suite, Elisabeth Gilles, qui dirigeait la collection Présence du Futur, m'a dit « Mais il faut absolument publier La forteresse de coton dans Présence du Futur ». Bon, j'ai accepté, enfin pour moi, personnellement, il n'y a absolument rien de science-fiction. On peut dire que c'est un roman à la limite du fantastique, mais c'est plutôt un roman de littérature générale. Et à ce moment-là, c'est une époque où j'ai changé. Parce qu'au début, tout à fait, quand la science-fiction est apparue, j'étais plutôt du genre, pas ayatollah comme fut Gérard Klein, par exemple, mais j'étais partisan de la science-fiction pure, c'est-à-dire vraiment non mélangée avec la littérature générale, parce que je pensais que la science-fiction était à la source de la littérature générale, et que c'était vraiment le mouvement qu'il fallait pour une époque donnée où la technologie entrait dans nos mœurs d'une manière violente, et donc essayer de transformer un peu, de voir comment allait se dérouler le futur. Sinon, La forteresse de coton, c'est un roman transgenre absolument, parce qu'il n'est absolument d'aucune catégorie, quoi. En réalité, c'est ça.
Mais Patrick, justement, les genres, les catégories, ça vous énerve complètement ?
Non, pas du tout. Je me rapproche donc. J'ai absolument rien contre, mais en revanche, j'aime beaucoup le mélange des genres. C'est qui s'apparente un petit peu à mes yeux comme un métissage littéraire. Et on sait que les bébés issus du métissage sont toujours pour le moins intéressants. Et c'est ce que, finalement, de série en série, je m'astreins à faire, aussi bien avec Les Héritiers de l'Aube, donc dont l'élément moteur principal est basé sur le voyage temporel, qui est donc un élément classique de la science-fiction, que je mixe avec de la fantasy pure, enfin, ce qu'on appelle la fantasy actuellement, puisque les héros évoluent dans un environnement complètement magique, quoi. Donc voilà, c'est sorcellerie, magie, plus voyage temporel. C'est effectivement, c'est tout à fait, on est tout à fait dans l'origine du mélange des genres. Et également dans mon tout dernier ouvrage, Victor London, qui est lui un unitaire, puisque là, c'est Angleterre victorienne principalement, mais avec des éléments steampunk et là encore de la sorcellerie.
Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait ? Une certaine liberté.
Le kiff total. Je m'éclate totalement parce que finalement, mes romans pourraient être simplement des romans d'aventure historique, puisque finalement, ma marque de fabrique perso, c'est, fantastique, action et historique. Mais je ne serais pas totalement satisfait si je me contentais de produire des romans d'aventure historique. Ça pourrait être de la cave, ça pourrait être Les Héritiers de l'Aube, ça aurait pu être un roman de KPDP, pourquoi pas, puisqu'une des héroïnes est une brigande au grand cœur du XVIIIe siècle qui est l'amante dans mon univers du célèbre brigand Cartouche. Mais ça ne m'aurait pas vraiment satisfait. Alors que là, fantastique, plus historique, et cette espèce de mélange entre la SF, la brigade temporelle, dont tout le monde connaît le principe, et les démons fomorés de la mythologie celtique irlandaise, donc voyage temporel plus sorcellerie, voilà, c'est ça qui m'intéresse, et je pense que je continuerai dans cette voie.
Xavier, toi tu as travaillé un peu dans tous les genres aussi, tu as fait de la fantasy, du fantastique, du polar, quelque part même du western fantastique, et puis tu as utilisé dans certains ouvrages l'histoire ou des personnages historiques que tu as modelés à ta manière. Qu'est-ce que ça t'apporte comme facilité ou comme difficulté d'écriture ?
Ça m'apporte ni facilité ni difficulté, au sens où c'est pas un moyen auquel je recours. J'ai fait ça depuis le début. C'est, par exemple, mon premier roman, Ganesha, Les Mémoires de l'Homme éléphant, c'est une structure policière, victorienne, mais avec des éléments fantastiques. Et en fait, je me bride pas du tout, quel que soit. En fait, c'est le projet qui va déterminer ce que je vais utiliser dans tel et tel genre ou en littérature générale. Par exemple, le tout dernier, Kafka Paris, est un roman de littérature générale, mais où il n'y a aucun élément surnaturel, mais le fait que le héros Kafka, le jeune Kafka, qui n'a encore rien écrit, soit l'un des maîtres et de la littérature générale et du fantastique, pour faire simple, ça colorait déjà le récit, forcément. Kafka allait affronter des situations qu'on appellera plus tard kafkaïennes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est simplement là de technique de le garagiste dans le moteur, c'est que le fait de faire de la littérature dite générale, mais avec les leçons tirées des genres, fait que on gagne beaucoup en métier, en richesse, je trouve. Par exemple, souvent dans les romans de littérature française dite pure, bah d'ailleurs Philippe dans son entretien à Libération l'évoquait sur la tendance excessive à l'autofiction française, bah, y a une sorte de, ah, y a bien sûr des choses réussies, mais on est dans le descriptif, dans le tamis psychologique, tout passe par la réflexion, alors que nous, de fait, on sait raconter des actions directes, des événements qui ont lieu, on sait les décrire et pas simplement les évoquer. Donc même d'un point de vue très technique, hein, très professionnel, je pense que les genres, dits mauvais par ailleurs, sont de formidables écoles d'écriture, parce que qui peut le plus peut le moins, en fait.
Oui, complètement.
Francis, toute ton œuvre écrite, c'est une œuvre transfictionnelle ?
Non, pas du tout. Mais mon œuvre se divise en deux parties. La première partie qui s'est déroulée vraiment dans le milieu de la SF. Mon premier roman, La Lune Noire d'Orion, était un space opéra. Bon, ayant fait ça une fois, je me suis dit, bon, ça va, je ne vais pas en faire un deuxième. Donc, je vais écrire une fantasy, ce qui était très mal vu à l'époque. On était en 83 et tout le milieu de la SF disait, fantasy, ben. Et bon, alors j'ai écrit une fantasy qui est Canor, que vous voyez là. Et puis après, j'ai eu une période, une bonne dépression. Et puis de toute façon, après Canaor, je ne voulais plus écrire de romans d'aventure. Alors je suis parti dans un espèce de délire qui s'est concrétisé par un troisième roman qui s'appelle La ville au fond de l'œil, qui est en gros l'expérience du monde schizo vu de l'intérieur. Donc un ouvrage totalement... éclaté, déjanté, qui raconte une histoire quand même, et c'est vraiment parce que je l'ai obligé, et qui se base sur les symptômes schizoïdes pris au pied de la lettre. Et mon quatrième roman, je ne le voyais pas comme un roman de science-fiction, mais sur le conseil de Jacques Chambon, je l'ai rédigé, j'en ai fait un planète-opéra, j'ai réinjecté des éléments de science-fiction qui n'y étaient pas au départ, et il a trouvé sa cohérence en tant que tel, et c'est Rivage des Intouchables. Et arrivé là, je me suis dit, bon, je ne peux pas aller plus loin dans cette direction. D'ailleurs, Rivage des Intouchables a eu le Grand Prix de l'Imaginaire, donc j'étais arrivé à un certain palier, et si je continuais dans cette direction, j'allais me répéter, donc il fallait que je reparte dans une autre direction. Et j'ai dit, bon, ben, le roman suivant sera totalement réaliste. Et ce roman a été L'ombre d'un soldat, qui est paru en collection blanche chez De Noël, qui a été suivi par Le jongleur interrompu. Mais le problème était que j'ai dû retirer 4 chapitres de L'ombre d'un soldat, parce qu'il y avait d'une certaine manière 2 romans en un, et ça ne fonctionnait pas très bien. Donc j'ai remodelé les chapitres que j'ai gardés, qui ont fait le roman, et je suis resté avec mes 4 chapitres sur les bras et sur l'estomac. Et alors, les 2 romans étant sortis, je me suis dit, bien, voilà ce que je vais faire, je vais reprendre les 4 chapitres qui ne sont pas parus, je vais en faire la cellule fondatrice, c'était sur le, ça tournait autour du théâtre. Donc je vais écrire un roman sur le théâtre où je vais utiliser tous les éléments et je vais reprendre le héros de L'ombre d'un soldat. Et puisque c'est les 2 premiers romans étaient compatibles, puisque se passaient à peu près dans les années 60, 70 l'un et l'autre, j'ai introduit dans ce troisième roman, qui s'est appelé Mélusate, un personnage du deuxième. Donc Mélusate est devenu la suite de 2 romans qui n'avaient aucun lien entre eux. Et au milieu de Mélusate se produit un événement, un personnage qui est le génie du théâtre sort d'une fresque et commence à agir sur les acteurs, le metteur en scène, etc. Donc tout à coup, l'univers n'est plus l'univers réaliste. Et tout content de m'être autorisé ça, je me suis dit, ben, allons-y, continuons. Et j'ai continué, donc j'ai raconté la suite de l'histoire de tel personnage, puis de tel autre, puis les enfants de celui-ci, les enfants de celui-là. Et j'ai commencé à avoir une espèce d'arborescence de romans qui se suivaient, qui ont fini par devenir un cycle de 9 romans, qui s'est appelé « Le rêve du démiurge », à la suite d'un déjeuner bien arrosé avec Gilles Dumay et Sébastien Guillot. Et donc ces 9 romans qui ont été publiés quand même chez 6 éditeurs différents, il faut le faire, ce cycle est totalement, lui, transfictionnel. Parce qu'il commence dans le réalisme, il bascule dans un fantastique de plus en plus assumé, de plus en plus délirant. Les morts ressuscitent, les âmes des morts reviennent, on les persécute. Enfin, il se passe tout un tas de choses totalement non réel. Et le 9e tome raconte l'histoire de l'auteur des 8 premiers, dont la maison d'édition est rachetée par un grand groupe. Et comme lui ne rapporte pas beaucoup d'argent, son œuvre risque de passer au pilon et la collection où il publie est supprimée. Et là-dessus, les personnages des 8 premiers romans sortent des limbes de la fiction pour venir soit lui donner un coup de main, soit l'enfoncer. Et donc, c'est pour ça que ce dernier roman s'appelle « Abîme du rêve », donc c'est parce que c'est une mise en abîme des 8 précédents. Donc là il y a un degré supplémentaire de transfictionnalité, si j'ose ainsi m'exprimer. Et bon, ça finit... d'une telle manière, je ne veux pas vous le dire pour ne pas spoiler, mais d'une manière telle que, ayant terminé ça, je me suis dit, j'ai plus rien à dire. Terminé, j'ai dit avec des mots tout ce que j'avais à dire. On était en 2011, et j'ai donc arrêté d'écrire. Et comme un torrent qui change de cours, ma créativité est passée dans la musique, donc maintenant je compose de la musique, mais sur des thèmes fantastiques, ou fantasy, ou vampirique, voilà, ça continue. Mais pour l'écriture, alors il y a cette espèce d'œuvre globale, donc de 9 romans, qui fait un pont entre la littérature générale et l'imaginaire, et qui est donc totalement transfictionnel en tant que cycle.
Soyons pratiques, c'est réédité.
Alors voilà, c'est Le Bélial et Dystopia se sont associés pour rééditer l'ensemble du cycle en 3 volumes de 3 romans. Le premier est sorti l'automne dernier. Donc le cycle s'appelle Le rêve du démiurge. Et il regroupe le premier tome regroupe les romans 1, 2, 3. Le deuxième tome va sortir cet automne, il contiendra les romans 4, 5, 6. Et le troisième tome sortira l'année prochaine et il regroupera les 7, le 8 et le 9. Donc on aura les 3 dans cette collection avec couverture très belle. Et donc... Non. Je suis inclassable. Je suis désolé.
Non, on pourra en parler, oui. Philippe, 3 bouquins plus ou moins anciens, « Cette chère humanité, le dormeur s'éveillera-t-il et en souvenir du futur » sont aussi réédités en un seul tome chez La Volte, sous le titre assez beau de « L'Europe après la pluie ». Là aussi, tu es complètement transfictionnel. D'ailleurs, est-ce que dans... ton métier d'écrivain, tu as jamais pensé à la frontière des genres?
En réalité, oui, au début, parce que j'ai pensé que la science-fiction serait une... À l'époque, il y avait la notion d'avant-garde, et je pensais que la science-fiction allait devenir, entre le surréalisme qui finissant et le nouveau roman naissant, une nouvelle littérature, un nouveau type de littérature qui serait appelée autre chose que la science-fiction, puisqu'à ce moment-là... le mot même n'existait pas en France, parce que finalement, des gens avant la guerre avaient lu des pulps. Mais personnellement, moi, je n'avais lu que des romans de science-fiction français qui s'appelaient à l'époque « Romans extraordinaires ». Donc j'avais l'intention d'écrire des romans extraordinaires, mais surtout de créer une nouvelle école littéraire. D'ailleurs, j'étais avec Jacques Sternberg, avec Michel Butor, etc. On avait pensé faire une revue qui, justement, exprimerait ce, dans une sorte de manifeste.
Il y avait Butor dans l'équipe. Oui, oui.
Une sorte de manifeste.
Quand on parle de Butor, tout s'écroule.
C'est-à-dire que le problème, c'est que Butor, lui, a rapidement compris que le fait d'écrire de la science-fiction lui interdirait toute carrière universitaire, et il a complètement changé de point de vue, et il a dit que la science-fiction, ça n'était que de la simple réduplication. Donc on l'a abandonné en route. Donc à ce moment-là, j'ai pensé, d'ailleurs j'avais commencé à écrire le premier roman, qui était non pas un space-opéra, mais ce que j'appelle un roman spatial, c'est-à-dire que ce n'est pas des histoires de guerre interplanétaire, mais vraiment des situations qui se passent sur des planètes avec des rapports justement entre des extraterrestres et donc une pensée étrangère et les humains. C'est ce qui me passionnait dans l'histoire du roman spatial. Et après avoir écrit ce roman, donc qui a eu beaucoup de succès dans son ensemble, je me suis mis donc à penser à la suite. Donc il y a eu La forteresse de coton, parce que tout d'un coup, il s'est produit alors que la science-fiction a été amené par les éditeurs qui ont trouvé une masse de livres anglo-saxons à acheter à faible prix et qui permettaient de remplacer le polar, qui était le policier, ça s'appelait à l'époque le roman policier, qui était en voie d'extinction, par un nouveau concept, la science-fiction. Et donc tous les éditeurs se sont mis à publier de la science-fiction. Et puis, alors qu'on a eu un accueil absolument extraordinaire, puisqu'on était accompagné par Boris Vian, par Raymond Queneau, par Michel Butor, par d'autres, Michel Carouge, que vous ne connaissez peut-être pas. Et donc, on était complètement, comme ça s'était produit jusqu'à présent, puisque quand les romans de Wells sont parus à l'époque, eh bien, il y avait des critiques de Zola, il y avait des critiques de tous les grands romanciers de l'époque qui ne faisaient aucune différence. Ils disaient simplement que c'est des romans étonnants, extraordinaires, et il n'y avait absolument aucune rupture entre la littérature générale et ce qu'on a appelé par la suite la science-fiction. Quand le mot s'est imposé par les collections des éditeurs, il s'est trouvé que petit à petit, donc les intellectuels français ont pensé que c'était vraiment des romans avec des femmes nues éternellement poursuivies par des monstres aux yeux pédonculés. Et donc la science-fiction est retombée complètement dans l'estime que lui portaient les gens jusqu'à présent. Donc dans les années 60, il y a eu un abandon complet. Et moi, personnellement, donc, j'ai écrit deux romans, donc La forteresse de coton et un autre qui s'appelle, alors c'était un roman très expérimental, puisque c'était pratiquement après Nadjad Breton, le premier roman photo. C'est un roman qui a été écrit avec un scénario préétabli. Et puis après, donc, d'après ce scénario, j'ai été sur les endroits où se déroulait l'histoire et j'ai pris des photos des endroits avec les personnages qui étaient là. Ce qui m'a permis par la suite de créer un roman extrêmement glacial dans lequel c'est un personnage qui s'invente une famille. Donc c'était un roman pour exprimer que la famille n'existe pas, puisque le personnage accumule donc un oncle, une fiancée, une sœur, etc., qu'il paye comme acteur, et petit à petit, tout se déconstruit au fur et à mesure qu'il se construit. Et c'est un roman qui est accompagné de photos, qui s'appelle donc « Attention les yeux ». Et puis donc, vers les années, à la fin des années 60, il y a eu Gérard Klein qui a commencé à faire sa collection Ailleurs et Demain. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais de recommencer à écrire vraiment de la science-fiction littéraire. Toujours avec mon vieux projet de faire une nouvelle école littéraire. Et donc, j'ai commencé par l'Europe après la pluie, qui est un ensemble de trois romans. Mais le premier, donc, s'appelait Cette chère humanité, parce que finalement, j'avais déjà imaginé depuis très longtemps que l'Europe allait subir des contre-coups assez douloureux parce qu'il est évident que toute la colonisation qui s'était produite auparavant avait amené à des pays qu'ils ne connaissaient pas une idée de ce que pouvait être une civilisation plus évoluée, et ça a provoqué des dégâts considérables parmi cette population. Et je me suis dit, mais un jour, ces gens-là, ils auront l'idée de cette admirable monde qu'on leur propose, et ils voudront venir en Europe pour voir comment ça se passe et essayer de s'intégrer dans ce monde.
C'était donc, assez prophétique. C'était assez prophétique.
Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai imaginé que la réaction immédiate des Européens, ça sera de fermer complètement. D'abord, il y a tous les émigrants sont chassés à Poitiers. Et à ce moment-là, le monde se referme. À l'époque, on parlait que du marché commun, donc on est toujours dans le marché commun, bien qu'on appelle ça la communauté européenne. Et donc j'ai créé le Marcom. Alors ce Marcom se referme entièrement sur lui-même et il est totalement infranchissable par un mur de force qui l'isole totalement de tout, sauf la Suisse qui est au milieu et qui a gardé une autonomie et qui est de plus en plus pauvre. Voilà. Donc j'avais déjà un peu prévu ce qui se passait. Et par la suite, donc, je me suis dit, bon, j'ai montré ce monde et dans lequel un personnage qui vient des pays justement en voie de développement qui s'appelle les PEVOAD va essayer de pénétrer parce que il se trouve que dans ce monde fermé de Saint-Cyr Humanité, les gens ont inventé des cabines de temps ralenti. Et alors au début, le directeur de cette usine de fabrication de temps ralenti a l'intention d'étendre le temps ralenti à tout le Marcom, parce que dans le temps ralenti, les gens peuvent vivre 7 jours en un jour, mais c'est à l'intérieur de cabines. Donc là, le projet est d'élargir tout à l'ensemble du Marcom, ce qui risque de faire des contractions temporelles absolument épouvantables pour l'ensemble de la planète. Et donc, il y a quelqu'un qui va venir des PEVOAD, des pays en voie de développement, pour essayer d'empêcher que ceci se réalise. Voilà, donc ça, c'est le thème principal. Et après, il est évident que c'est là où on retrouve le transgenre, parce que autant j'ai bien déterminé cette possibilité de l'Europe en train de se refermer sur elle-même et de chasser les migrants, par la suite, je suis parti dans l'imaginaire pur et surtout, quand même, j'ai été quand même très influencé par le surréalisme. J'ai fait beaucoup de travaux d'écriture automatique en associant des mots et donc j'ai inventé des tas de choses extrêmement étranges. Donc il y a par exemple des montreurs de rêves qui montrent les rêves des gens, qui les visualisent, qui forment une espèce de religion particulière. Donc il y a des dissidents, enfin, il y a toutes sortes de personnages. Enfin, c'est quand même un monde dans lequel, c'était quand même, je l'ai écrit en 1973, dans lequel les gens ont des bracelets comme, ça s'appelle là, comme ça, ce sont des swatch. Le vote est électronique, et donc j'ai quand même pas mal trouvé de choses qui allaient se produire dans les années suivantes. Ce qui prouve que quelquefois, les auteurs de science-fiction ne se trompent pas tellement sur la façon dont les choses vont se passer. Évidemment, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais ça y ressemble. Et donc, par la suite, j'ai voulu montrer une autre face donc, de la possibilité de ce Marcom. C'est qu'avant la construction, il y a eu une espèce de révolution molle qui s'est produite entre les anarchistes, les écologistes, toutes sortes de mouvances religieuses, etc., ont créé une force un peu comme Nuit Debout aujourd'hui, mais une Nuit Debout qui fonctionnerait à 100% et qui finirait par faire éclater la société. Donc on se trouve dans le dormeur s'éveillera-t-il, dans une société complètement foutue en l'air, où l'État n'a plus de rôle, tout le monde se balade dans tous les sens, on ne sait plus très bien où on en est, et donc il va y avoir l'itinéraire d'un personnage qui a retrouvé un bébé qui dort. Ce bébé s'appelle le dormeur, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il pense. Il porte en lui peut-être l'avenir de l'humanité, mais donc à travers un paysage désolé, il va traverser toute une histoire. Voilà. Donc je passe sur le dernier roman pour passer la parole à quelqu'un d'autre.
Patrick, on a parlé tout à l'heure de la difficulté d'étiqueter ce genre de roman transgenre, transfictionnel.
Oui.
C'est vraiment embêtant quand même pour les auteurs, ça, de ne pas se trouver dans une catégorie ou une autre, ou bien...
Non, non, personnellement, non, ça ne me dérange pas. Je pense pas que ça ce soit un handicap particulier. Ce qui est plus, effectivement, ce qui est plus embêtant pour nous tous, c'est, comme disait l'un de mes camarades, l'ostracisme dont sont sujets les genres, nos genres en fait. Les littératures de l'imaginaire, du fantastique, effectivement, qui sont considérées complètement en tort, nous le savons tous, vous le savez tous également, comme des sous-genres de la littérature dite blanche, mais sinon, après, la catégorisation, moi, ça ne me dérange pas. Parfois, on me catégorise, en général, on me catégorise plutôt fantasy. Je ne suis pas complètement d'accord. Moi, j'ai plutôt l'impression d'écrire du fantastique. Mais après, voilà, c'est pas grave. C'est aucun souci.
Mais pour Xavier, est-ce que, surtout dans tes derniers romans, en particulier American Gothic, c'est paru dans une édition de littérature générale? Ça a été vendu d'habitude plutôt auprès de ceux qui te connaissent en science-fiction, fantastique, fantasy. Est-ce que, justement, tu n'as pas un peu souffert de ces frontières poreuses ?
Bah, du tout, parce que ça m'a même ouvert différents domaines, puisque, par exemple, à France Culture, je travaille sur les différents genres et même des approches de littérature générale. À la télévision, j'ai travaillé sur des projets d'imaginaire, mais par exemple avec des auteurs de littérature générale. Et je pense que c'est très intéressant de passer de l'un à l'autre. Alors, ça pose peut-être des problèmes de très concrets de référencement en librairie, peut-être. Ça, c'est possible. En bibliothèque, moins, parce que ça va, je m'y retrouve assez selon les invitations en médiathèque, ça va à peu près. La grosse différence, je crois, c'est pas tellement les genres, c'est adulte-jeunesse surtout que j'ai senti, mais non. Non, non, au contraire, moi je trouve ça très intéressant. Et puis surtout, je saurais pas faire autrement, puisque c'est ça qui me plaît, mélanger les genres. Donc, j'aimerais pas brider pour coller à un genre où non, moi ça me va très bien.
Et en plus, je pense que les lectrices et lecteurs s'embarrassent pas justement de se préoccupent pas, se posent pas ce genre de questions.
Patrick a tout à fait raison. Il y a aussi le fait que souvent les gens vous lisent, vous, ils vous suivent comme auteur et puis ils aiment bien ce que vous faites, quoi que ce soit, ou ils aiment pas, mais ils vous suivront. Soit, ce qu'on oublie trop souvent aussi, c'est que l'objet livre, il vit tout seul en librairie, et c'est la quatrième de couverture qui va décider, quels que soient les parcours de chacun, c'est le livre qui se décide. Donc si on prend une quatrième de couve là qui plaît, le livre existera sans savoir si l'auteur a des émois ou des projets théoriques ou un vécu dans le genre, il s'en fiche. C'est l'histoire, l'intrigue. Donc moi, mes livres, je pense que c'est pareil pour toi, vivent indépendamment de ce qu'on est nous. On s'en fiche de ça.
Oui, oui, totalement.
Oui, moi, je vous trouve bien optimiste parce que dans les librairies comme dans les bibliothèques, vos livres se retrouvent dans une catégorie. Il y a les tables science-fiction, les tables polar, les tables étrangers, les tables littérature blanche française. Et si quelqu'un a envie de lire American Gothic et qu'il ne retrouve pas en littérature générale mais en science-fiction ou l'inverse, c'est quand même un problème.
Oui, c'est un problème. Il y a un exemple particulier. Par exemple, ce roman qui vient de ressortir, Akiloé, qui a déjà paru une première fois et qui, par l'éditrice primitive chez Flammarion, m'avait fait couper le roman en deux sous prétexte que la deuxième partie, c'était de la science-fiction, alors que le personnage principal va simplement être à Kourou et partir dans la première expédition vers Mars, ce qui n'est pas de la science-fiction, c'est simplement de l'anticipation, mais encore même. Le sujet principal du roman, c'est l'histoire d'un jeune Indien qui va perdre sa famille et qui donc va essayer d'avoir un parcours qui ressemble un peu au parcours de l'humanité, puisqu'il va petit à petit apprendre la civilisation, entrer, avoir surtout dans le monde de la Guyane où il se passe des choses extraordinaires, parce qu'il y a un mélange de populations, il y a des fractures étranges entre les gens, et que la présence de la forêt est surtout quelque chose de miraculeux. Et donc ce roman est absolument non science-fiction. On peut dire qu'il est à rigueur spéculatif, puisque le personnage va évoluer d'une manière très particulière, mais il n'y a rien eu à faire. À partir du moment où ce roman est sorti, moi qui suis quand même peut-être un ancêtre de la science-fiction française, systématiquement, ce roman a été mis dans la catégorie science-fiction. Donc les gens qui étaient dans la rubrique science-fiction ont acheté ce livre même en lisant la quatrième de couverture, et simplement il y a marqué quelque part que je suis allié à la science-fiction, donc il n'y a rien à faire. Ça tombe automatiquement dans la rubrique, donc je ne dis pas que j'en souffre, mais je dis simplement que c'est épouvantable d'écrire des romans de littérature générale et de se retrouver dans des rayons de science-fiction.
Mais moi, ça m'arrive pas, c'est justement parce que, et c'était ton cas, Francis, aussi, on est passé chez des éditeurs de littérature générale. Moi, je vois, par exemple, sur le dernier Kafka à Paris, qui est littérature générale, traitement littérature générale, via le passage de la presse, les gens qui vont chercher le livre, ils vont pas dans un rayon. Donc, y a aussi le fait que, de nos jours, ceux qui se réclament de la pure fantaisie ou de la pure science-fiction, le fantastique c'est différent, ont un trajet d'édition qui est différent, parce que tu choisis maintenant de faire de la science-fiction ou de la fantaisie, mais tu peux choisir aussi, parce que les générations sont nourries à la fois de littérature générale, de polar dont on a peu parlé, et de l'imaginaire, de faire des hybrides. Et donc, de plus en plus, tu peux essayer de tenter des choses, mais chez des éditeurs de littérature générale, pour le coup.
Oui, mais ça, c'est une question de génération, parce que moi, je suis marqué, si tu veux. Parce que j'ai une correspondance énorme avec la famille Gallimard, depuis Gaston jusqu'à Claude, avec Antoine, pour publier tous mes romans en littérature générale, puisque La forteresse de coton est parue en collection blanche chez Gallimard au départ. Et donc, par la suite, j'ai voulu absolument que cette chère humanité, que tous les romans que j'ai écrits, soient publiés chez Gallimard, comme c'était mon éditeur de départ. Et j'ai une correspondance assez furieuse avec toute la famille, et qui, à chaque fois, a refusé en disant... d'ailleurs, Antoine Gallimard, qui, au début, a voulu faire une collection de science-fiction, et à l'époque, il était très peu connu, puisque son père ne le destinait pas à diriger la maison d'édition... a fait avec André Ruelland et moi un projet de collection de science-fiction. Il est allé trouver son père, Claude, il lui a dit, voilà, papa Gallimard, je voudrais faire une collection de science-fiction. Il dit, nous avons déjà ça pour ça, nous avons de Noël, c'est pas la peine. Et après, Antoine Gallimard a pris sa revanche, et par la suite, donc, tous mes romans, je lui ai proposé, même j'ai écrit un roman qui s'appelle Axe Beau New York, qui est un roman... Pulsionnel qui est paru 2 ans avant Paris Texas, et je pense que Wim Wenders a largement puisé dedans, et donc c'était aussi un roman de littérature générale, et donc il n'a même pas voulu le publier dans Folio SF général. Donc si vous voulez, contrairement à Xavier Mauméjean, moi je n'ai jamais pu pénétrer, parce qu'il n'y a rien à faire, je suis connoté à tout jamais comme un des fondateurs de la science-fiction, donc je suis la science-fiction incarnée, et on ne peut pas me mettre ailleurs.
Francis,
oui. Moi, je dirais un peu la même chose que Philippe. Moi, j'ai fait une incursion, j'ai passé 10 ans dans le milieu de la SF et 10 ans dans le milieu de la littérature générale. Dans la littérature générale, je faisais partie du groupe de la nouvelle fiction, donc avec Château Renaud, Coupry, Frédéric Tristan, Marc Petit, Jean-Claude Bologne et quelques autres, qui étaient des auteurs vraiment de grand niveau, parce qu'il y a eu quand même 2 Goncourt dans le groupe, un Renaudot, enfin bon. Et ces auteurs-là tendaient très fort vers l'imaginaire. Donc on essayait vraiment de tendre des passerelles entre les 2 continents. Et moi, au bout de 10 ans, j'ai bien été obligé de me rendre compte que les seules critiques qui m'avaient suivi pendant tout mon périple en littérature générale, c'était les critiques de SF, du milieu SF, et que je faisais des ventes absolument catastrophiques en littérature blanche. Donc, et je me suis dit, bon, je retourne dans les littératures générales de l'imaginaire, parce que finalement, c'est là qu'on me reconnaît pour ce que je suis. Et fin de l'histoire.
Revenons au thème.
Et je vais d'ailleurs... devoir vous quitter là, donc ça va être fin de mon intervention.
Merci Francis.
Merci, bonne fin de festival à tous.
Merci.
Xavier, le titre de ce débat, c'est Mélange des genres, un atout pour le romanesque. Pourquoi le mélange pourrait-il être un atout pour le romanesque?
Peut-être pour... Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... juste une petite chose, Francis et Philippe ont aussi introduit une chose très, très importante dans la science-fiction, c'est la qualité aussi. Hein. Vous parlez aussi de la notion de qualité. C'est pas parce qu'un genre existe qu'il y a forcément de la qualité. Et aussi bien Francis que Philippe, il y avait une exigence littéraire qui a eu un avant et un après, d'où le florilège de noms qui vous ont entouré à différents moments. Bon, pour l'atout, ben justement, pour l'atout romanesque, de manière peut-être plus technique, c'est ce qu'on évoquait avec Patrick, c'est que le fait d'écrire dans le polar ou la science-fiction ou la fantasy, déjà suppose que vous mettiez de l'action. On va parler très simplement, vous avez de l'action. Il y a de magnifiques romans qu'on aime tous ici, qui sont des littératures générales introspectives, mais c'est un autre débat.
Voilà, c'est un autre débat. Nous, on raconte des histoires.
Donc, il y a des nécessités, par exemple, des différences de traitement qui sont pour moi cet atout que tu évoques. C'est que, par exemple, on va dans... Bien sûr, c'est caricatural, on est pris par le temps, mais on va, dans la littérature générale, dire que l'on a mangé, par exemple, en littérature de genre, ce sera montré. Les personnages vont manger. Alors, si pour un élément aussi simple et aussi naturel que manger, il y a une différence, on imagine bien que des scènes de choule ou des choses comme ça sont traitées différemment. Et par exemple, je vois pour mon dernier Kafka à Paris, à un moment, Kafka, c'est un livre de littérature générale, descend dans les égouts de Paris. Ben, c'est justement parce que j'avais, moi, cette pratique des littératures de genre que la descente dans les égouts de Paris, avec les rats, l'humidité et tout, grâce aux ficelles, je dirais, du fantastique, font que, j'espère, c'est une scène terrifiante ou angoissante dans un roman de littérature générale. Alors que peut-être que si j'avais eu, je ne parle pas des autres auteurs, hein, je parle de moi, je ne sais pas, si j'avais qu'une formation en littérature générale, il serait descendu dans les égouts de Paris de manière raisonnablement effrayante. Parce que là, j'ai visé, avec tout l'acquis de lecteurs de Lovecraft, Poe et compagnie, en faire quelque chose de terrifiant. Et toi, justement, c'est quoi pour toi l'atout en l'ajout, le mélange des genres?
Techniquement, disons, pour moi, avant tout, c'est d'éviter le ronronnement. Quoi. C'est d'éviter finalement de s'ennuyer au bout d'un moment, simplement.
En tant qu'auteur, ça.
Oui, simplement en tant qu'auteur. Mais en même temps, en pensant, en se projetant vers ses lectrices et lecteurs. Parce que quand on s'ennuie soi, en général, ceux qui nous lisent également. Mais je voulais préciser aussi que les genres dans lesquels nous travaillons, je parlais d'ostracisme tout à l'heure, effectivement, mais il faut quand même toujours clamer haut et fort que on peut atteindre une grande qualité d'écriture également, quoi. Moi, parfois, il m'arrive d'entendre des tel ou tel qui effectivement pensera ou dira carrément que quand c'est pas de la littérature blanche, c'est pas très bien écrit, quoi. Alors que c'est tout le contraire. Moi, j'ai eu l'immense plaisir de lire la chronique d'une blogueuse, pardon, du coup, ça va paraître un petit peu immodeste et je parle de moi, mais. C'était quand même assez exceptionnel comme chronique, une chronique portant sur mon dernier, donc mon petit dernier, Victor London, où la jeune dame disait, indépendamment pardon, de ce qu'elle jugeait par rapport à l'intrigue, elle disait que la finesse, je la cite, la finesse de la plume de Patrick Maxper s'apparente à celle des auteurs classiques. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait à ce jour, et effectivement, je m'efforce d'écrire de mon mieux à chacun de mes romans. Et c'est complètement injuste, effectivement, alors que ça soit la science-fiction, j'ai entendu, moi, des trucs terrible, quoi. Comme quoi, c'était, ouais, mais bon, on écrit ça, tu sais, comme si on écrivait ça en pensant à autre chose ou en faisant la liste des courses, quoi. Alors que non, pas du tout, quoi.
Il y a un problème aussi, dans la différence entre les genres et la littérature générale, c'est que vous n'avez pas de geek en littérature générale. Vous n'avez pas de fans. Il n'y a pas des gens qui vont s'habiller en personnage de Musso. Il n'y a pas l'équivalent. Et je pense que ça joue beaucoup, d'un point de vue social, sur la réception des littératures de genre, tout simplement. Parce que si vous avez... imaginons qu'il y ait, par exemple, 15 personnes habillées en Adrien parce qu'ils sont fans de Yourcenar. Ce serait... voilà, ça, on n'a pas... Donc, il y a aussi des éléments qui sont totalement étrangers aux livres existants, aux livres effectifs, qui font qu'on est pris pour des glouglous, pour des raisons totalement extra-littéraires aussi.
Oui.
C'est vrai.
Mais oui, c'est sûr.
Alors, je voulais parler d'autre chose qui était très important, c'est le fait que un certain nombre d'auteurs ont échappé complètement à cette malédiction. Par exemple, Robert Merle, qui a écrit des quantités de romans de science-fiction en collection blanche. Et on assiste aujourd'hui à quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans un grand nombre de romans de littérature générale, la science-fiction est injectée. Donc c'est là où il y a un mélange des genres, où la science-fiction prend la force et redonne de la force aux romans littéraires. On fait un déjeuner du lundi entre auteurs, etc., depuis 1953. Donc... on vient de décerner un prix qui s'appelle le prix du lundi à 7 de Tristan Garcia. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman. C'est un roman de littérature générale qui étant été de la pure science-fiction. Donc à la suite de quoi, j'ai écrit à Tristan Garcia, on a eu une correspondance, et lui m'a expliqué que depuis toujours il lit de la science-fiction, qu'il m'a lu beaucoup, qu'il a lu mes critiques. Il m'a même dit un jour, j'étais furieux parce que j'avais mis toutes mes économies sur une critique que tu avais faite sur un Ian Banks. Et donc, ce Ian Banks n'avait pas plu. Et donc, j'étais furieux après toi. Donc, et lui, si vous avez l'occasion de lire ce livre, 7 de Tristan Garcia, vous rendrez compte que c'est paru dans la collection blanche de chez Gallimard. Lui-même m'a dit qu'à l'intérieur de chez Gallimard, il était dans une situation assez particulière. Et... il est actuellement des dizaines et des dizaines de romans qui paraissent en collection de littérature générale dans lesquels la science-fiction est insufflée et donne un certain punch parce que finalement, ces auteurs ont lu tous de la science-fiction et ont compris ce que ça pouvait amener à la littérature générale. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est en train de se produire. Donc, il y a une espèce de fusion. Et c'est donc la science-fiction amène énormément... à la science-fiction ou le fantastique ou même la fantasy. Enfin,
ça veut dire que les écrivains vont chercher les outils qui sont nécessaires dans quelque genre que ce soit, s'ils en ont besoin. Et il y a une espèce de décloisonnement peut-être aujourd'hui. Ouais. Rosa Montero, qui est une écrivaine espagnole de littérature générale, vient de sortir un bouquin pur science-fiction avec des réplicants, comme chez Philippe Kédic. Et c'est paru chez Métallier, en littérature générale, et ça ne gêne personne. Oui. Et ça ne gêne personne, surtout en Espagne, qui est peut-être moins classifié, organisé que chez nous.
Même pour montrer et rebondir sur ce que disait Philippe, par exemple, vous avez peut-être entendu parler il y a deux ans du comité Colbert, ça fait un petit peu de bruit dans Landerneau. Où le comité Colbert, donc l'ensemble des marques de luxe françaises, Chanel, Champagne, ont décidé de faire une grosse opération mondiale et ils ont demandé à 5 auteurs français, Jean-Claude Duniac, Samantha Bailly, ici Olivier Paquet, Joël Vintrebert et moi, et c'était de la science-fiction. Ils demandaient de la science-fiction et ils écoutaient ça très sérieusement. Donc ça se mêlait aussi à un réel travail chez eux de prospective, d'anticiper ce que va être le luxe dans 50 ans pour des raisons notamment environnementales et écologiques. Donc il y a une réflexion du futur dans ces grosses boîtes qui est très sérieuse, mais il y avait aussi cette volonté de faire de la science-fiction qui soit de la science-fiction. Vraiment, il n'était pas question de mettre de l'eau, du champagne, de diluer dans son vin. Il voulait de la science-fiction. Et là aussi, ça confirme bien le fait, ce que tu disais d'ailleurs dans l'article dans Libération, que la science-fiction est en train de se diffuser de manière là évidente dans non seulement la littérature, mais la télé, le cinéma et d'autres entreprises.
Oui, on peut dire de toute façon que la science-fiction influence la pub. Par exemple, la pub télévisuelle, elle est totalement bourrée de SF. Hein, et ça a imprégné à peu près tout, parce que ça a été un mouvement profond. Les gens se sont rendus compte que finalement, parler de l'avenir... C'est vrai qu'il y a une chose qui est terrible par rapport à la science-fiction. Je reviens sur les frères Bogdanov... qui ont écrit quand même un livre qui est assez intéressant, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui est paru dans la collection de Gérard Klein, dans lequel ils ont interviewé... voilà, c'est ça, l'effet science-fiction. Et donc, dans cet ouvrage qui est à lire, qui est absolument extraordinaire, ils ont interviewé de Michel Morgan à Pierre Mesmer, ou à quelques... Noblio, parce qu'il connaissait beaucoup les Noblio. Enfin, c'est extraordinaire. Par exemple, je sais qu'il y avait un texte de Michel Morgan disant « Mais non, mais moi, l'avenir me fait tellement peur, je ne veux absolument pas savoir ce que c'est. La science-fiction, c'est une horreur, c'est vraiment quelque chose qui me rend malade. » Et dans l'ensemble, à part, il y a eu quelques scientifiques aussi, alors qui ont rabaissé la science-fiction en disant « Mais non, ils ne comprennent rien, la science-fiction, ça n'a aucun rapport avec la science. » Alors que tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de science sans science-fiction. Hein, puisque, finalement, la recherche, c'est ça, c'est de la science-fiction.
Est-ce que... je voudrais parler d'écriture aussi. Est-ce que le mélange des genres se fait aussi dans l'écriture? Est-ce que l'écriture de vos livres, des livres transfictionnels, va chercher au surréalisme, par exemple, comme disait Philippe tout à l'heure, ou dans d'autres domaines, le cinéma, la photo, la musique, des procédés d'écriture. Patrick.
Moi, personnellement, j'ai une écriture qu'on qualifie généralement de cinématographique. Ça tient probablement au fait que je suis un ancien auteur BD, un ancien dessinateur BD, et scénariste BD. Je suis toujours actuellement scénariste, mais j'ai complètement lâché le dessin. Et comme vous le savez, les techniques narratives visuelles de la BD sont les mêmes que celles du cinéma. Le découpage, le sens de l'ellipse, tout ça, bon voilà. Et donc, j'en suis totalement imprégné, puisque j'ai plongé dans la bande dessinée. Alors plutôt d'origine états-unienne quand j'étais petit, avec les comics Marvel qui nous propose énormément de films depuis quelques années. Et je pense que ça se ressent, ça se voit effectivement dans mon écriture. C'est là, oui, effectivement, c'est un espèce de mélange des genres.
Alors, outre les influences diverses et variées, moi, j'ai beaucoup appris de la radio. C'est-à-dire que le fait d'écrire des pièces pour radiophoniques pour France Culture a fait que j'ai, je pense, beaucoup gagné en efficacité, en dynamique des dialogues. C'est évident que la radio est une formidable école pour faire des dialogues où chaque mot est important et où on entend, on ne lit pas les mots, on les entend. Donc c'est une autre façon d'écrire, et j'ai beaucoup gagné de la radio.
Et Philippe, tu es aussi photographe et artiste de collage photographique, etc. Ouais. Là aussi, l'art peut t'influencer pour écrire.
Ah oui, absolument. De toute façon, j'ai deux activités parallèles. Donc une qui est celle de la littérature, et comme j'ai été photographe dans le temps, donc j'ai dû utiliser beaucoup la photo, même pour des romans de science-fiction, pour après, parce qu'il y a un phénomène étrange dans la photo, c'est on pense la photo, n'est-ce pas ? Par exemple, on a un endroit qu'on a envie de photographier pour des besoins précis à l'intérieur d'un roman. À ce moment-là, on a une idée précise de ce qu'on va faire. Après, on fait la photo, donc on a une espèce de sentiment particulier qui est celui du photographe. Et après, on a la découverte de la photo. Et donc, quand on écrit à partir des photos, on a ces trois états de l'imaginaire qui se superposent et qui donne un sentiment très particulier, d'une part, d'un réalisme intense, puisque on a tous les détails infinitésimales qu'on n'aurait pas pu recréer sans la présence des images. Et par ailleurs, on a aussi le sentiment d'avoir découvert ce qu'on avait prévu auparavant. Donc ça, c'est un moyen. Et alors, le deuxième système, c'est moi, personnellement, j'ai toujours pratiqué les méthodes de Raymond Roussel. C'est-à-dire Raymond Roussel avait deux possibilités, c'est-à-dire soit faire des calembours qui allaient d'un bout à l'autre d'une phrase et à partir de là, développer un récit à partir de là. Moi, personnellement, j'ai utilisé le système de la loterie des mots. C'est-à-dire, je prends des mots au hasard, je les empile comme ça, et donc je les aligne et les mélange, et après, j'essaye de faire des ponts entre ces mots. Et particulièrement, quand j'arrive à un passage où je trouve que je m'enferre un peu trop dans une littérature statique et que j'ai besoin de rebondissements, donc je fais ce mélange et je transforme toute la situation du roman grâce à ces découvertes. D'ailleurs, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Les Saves de Falun », qui va reparaître en numérique bientôt. C'est un roman qui a été entièrement écrit d'après ces théories. Et donc, toutes les situations étaient entièrement faites par le dé qui fait le hasard.
Comme le Viking chez Philippe Kédic. Eh bien, ben oui, il est presque 11h, donc on va laisser la place au suivant. Merci à Patrick, à Xavier et à Philippe. Et merci à vous pour votre attention.
Ben oui. Merci.